Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un phénomène, un truc qui a vraiment envahi les bibliothèques de nos enfants et nous file d'actualité, les livres personnalisés.
Ah oui, on en voit partout.
Partout. Vous savez, ces histoires où le prénom de notre enfant, il apparaît à chaque page, où il ou elle devient le héros ou l'héroïne d'une grande aventure.
La promesse est très séduisante, c'est vrai.
Elle est séduisante, mais la question s'impose, quoi. Est-ce que c'est un simple gadget marketing bien ficelé ou est-ce qu'il y a une vraie science derrière cette idée de placer un enfant au centre de son propre récit?
C'est la vraie question. Pour essayer de démêler tout ça, on a exploré une pile de documents assez passionnants. Des méta-analyses sur la lecture numérique, des études sur le développement de l'empathie et même des rapports très pointus sur ce qui fait un bon livre numérique.
Du coup, notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre si ces livres peuvent vraiment être un plus pour le développement d'un enfant et surtout à quelles conditions. Comment on fait la différence entre un outil pédagogique puissant et un produit de mauvaise qualité généré en deux clics par une IA.
Et là, vous mettez le doigt sur le point crucial. Ce que toutes nos sources révèlent, c'est que le débat, il est plus simplement papier contre écran. Ça, c'est un peu dépassé.
D'accord.
La vraie question, c'est celle de la psychologie de l'engagement. Le concept qui revient tout le temps, c'est la personnalisation comme un levier. Un levier pour renforcer le lien.
Le lien entre l'enfant et l'histoire.
Pas seulement. C'est ça qui est intéressant. Oui, le lien avec l'histoire. Mais surtout, le lien entre l'enfant et le parent qui lit avec lui. Et vraiment, le fil conducteur de tout ça, la distinction fondamentale, c'est la différence entre la quantité de technologie,
les animations, les sons,
voilà, les gadgets, et la qualité de l'interaction humaine, que cette technologie favorise ou, au contraire, qu'elle parasite. C'est vraiment là que tout se joue.
Bon, alors allons-y. Commençons par la promesse, le côté lumineux de la chose. L'idée qu'un enfant se voit comme le héros de sa propre histoire, c'est puissant. Intuitivement, on se dit que ça doit booster l'estime de soi. Mais au-delà de l'intuition, la recherche, elle en dit quoi concrètement?
L'impact est bien réel, oui. Et il touche à des compétences vraiment fondamentales. Il y a une étude fascinante de Christina Kumpulainen, de 2022, qui a exploré ce qu'elle appelle la narration augmentée.
La narration augmentée.
Oui. Dans son expérience, des enfants utilisaient une application de réalité augmentée pour intégrer un personnage, une sorte d'avatar d'eux-mêmes, dans un environnement bien réel, une forêt par exemple.
Donc si je comprends bien, ils se promenaient dans la nature et ils voyaient leur petit personnage interagir avec les arbres, les animaux, sur l'écran d'une tablette.
Exactement. Et le résultat, c'est ce que la chercheuse a appelé des rencontres empathiques. En fait, en voyant le monde à travers les yeux de ce personnage, en le superposant à la réalité, les enfants ont commencé à développer une perspective différente.
Ah oui.
Ils se posaient des questions sur ce que pouvait ressentir un insecte ou pourquoi un arbre avait besoin de pluie. Le personnage personnalisé est devenu une sorte de pont, un canal pour développer de l'empathie envers le monde qui les entourait.
C'est une belle idée, mais attendez, est-ce qu'on est sûr que c'est de l'empathie profonde? Ou est-ce que les enfants ne font que projeter leurs propres sentiments sur une bestiole virtuelle? En d'autres termes, est-ce que ça les rend plus attentifs à la vraie nature ou juste plus attachés à leur jeu?
C'est une excellente objection. L'étude suggère que c'est bien plus qu'un simple attachement. En verbalisant ce que le personnage ressentait, l'enfant s'entraînait en fait à décentrer son point de vue. Et ça, c'est une compétence clé de l'empathie.
D'accord.
Et d'ailleurs, ça corrobore ce qu'on voit dans les stratégies de marque de ce secteur. Un des documents qu'on a consulté montre que le pilier éditorial de ces entreprises s'est souvent formulé comme « empathie et estime de soi ». Ce n'est donc pas un hasard, quoi. C'est un objectif psychologique délibéré qui trouve un écho dans la recherche.
D'accord. L'empathie, c'est une chose. Mais quid des compétences plus scolaires, comme l'apprentissage du langage? C'est souvent l'argument numéro un qu'on entend.
On y vient. Il y a une étude longitudinale de Wengman et ses collaborateurs qui doit paraître en 2025. Elle a suivi des tout-petits, de 10 à 24 mois, pour identifier le meilleur prédicteur du développement de leur vocabulaire. Et la conclusion, elle est assez surprenante. C'est-à-dire le simple fait que parents et enfants regardent la même chose, ni même les compétences cognitives de l'enfant qui sont le facteur numéro un.
Et donc, c'est quoi le vrai moteur?
Ce sont ce que les chercheurs appellent les comportements de soutien parental.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire la manière dont le parent interagit activement pendant la lecture, encourager l'enfant, poser des questions, développer ses idées, répondre à ses babillages. C'est ce qu'on appelle l'étayage en psychologie.
D'accord.
Et c'est là qu'un livre personnalisé bien conçu devient un catalyseur exceptionnel.
Ça me parle complètement. Quand je lis une histoire générique sur un petit ours qui va au marché, bon, c'est juste une histoire. Mais si le livre personnalisé parle de notre chat Minou qui se perd dans notre rue, alors là...
La conversation explose.
Oui, voilà. Soudain, on parle de ce que Minou a fait ce matin, de ce qu'il aime manger, du voisin qu'il n'aime pas. L'histoire n'est plus une fin en soi. Elle devient un tremplin.
C'est la parfaite illustration. Le livre personnalisé facilite ce que les chercheurs nomment le « discours extratextuel ». Il offre aux parents des perches naturelles pour connecter l'histoire à la vie réelle de l'enfant. La question « Tu te souviens quand on est allé au parc ?» comme le héros, elle vient beaucoup plus spontanément.
La technologie n'est plus un remplacement de l'humain.
Non, elle l'augmente, elle la nourrit. Ok, la promesse est séduisante et scientifiquement fondée. Plus d'empathie, un vocabulaire potentiellement plus riche, un lien parent-enfant renforcé. Ça, c'est l'idéal.
C'est l'idéal. Mais mon réflexe, quand je vois la quantité de pubs pour des applications qui promettent de générer une histoire unique en 30 secondes, c'est de me méfier. J'ai l'impression qu'on risque de tomber dans le gadget qui, au final, nuit plus qu'il aide. Qu'est-ce qui sépare le bon grain de l'ivraie ?
Votre méfiance est saine, et elle est encore une fois validée par la recherche. Tous les livres numériques ne se valent pas, mais alors loin de là. Il y a une méta-analyse capitale menée par Furness et ses collègues en 2021. Ils ont compilé les résultats de dizaines d'études comparant la lecture sur papier et sur écran chez les enfants de 1 à 8 ans.
Et le verdict, l'écran, c'est le mal.
C'est bien plus nuancé, et c'est là que se trouve la pépite de cette analyse. Les livres numériques peuvent, dans certains cas, surpasser les livres papier pour la compréhension de l'histoire et l'apprentissage du vocabulaire.
Ah, quand même! Oui, mais, et c'est un mais crucial, à une condition très stricte. Il faut que leurs améliorations, les animations, les sons, les zones interactives, soient directement liées au récit et qu'elles soutiennent la compréhension. Qu'elles servent l'histoire, en fait.
Voilà, qu'elles servent l'histoire.
Et si c'est pas le cas? Si on a juste des étoiles qui scintillent ou des canards qui font coin-coin quand on appuie dessus sans aucun rapport...
Alors non seulement ça n'aide pas, mais ça nuit activement à l'apprentissage. La charge cognitive de l'enfant augmente, son attention est détournée de l'histoire, des mots importants.
Il retient moins bien.
Beaucoup moins bien. L'intrigue, le vocabulaire. C'est exactement ce qu'on peut appeler la malbouffe numérique. Et on peut en déduire que la majorité des livres de piètre qualité, générés à la chaîne par des IA mal supervisées,
avec des images et des sons génériques,
tombent précisément dans cette catégorie négative. C'est fou, parce que ça va à l'encontre de toute l'intuition marketing. On s'imagine que plus il y a de clics, d'animations, plus le produit est riche. Mais la science nous dit que c'est le contraire. La sobriété, quand elle est au service de l'histoire, est plus efficace.
Absolument. Il faut passer d'une logique de l'ajout à une logique de l'intention. Un rapport très complet, Children's Digital Books, nous donne une grille de lecture très claire, avec 9 critères de qualité.
D'accord. Prenons-en quelques-uns. D'abord, le livre doit être intentionnel. Son objectif, qu'il soit éducatif, social, ludique, doit être clair. Ensuite, l'interactivité doit être pertinente. Une mauvaise interaction, c'est un bouton qui fait un bruit de klaxon sans raison. Une bonne interaction...
C'est taper sur un mot difficile pour l'entendre prononcer.
Par exemple...
Ou une animation qui illustre une action complexe du récit.
Et j'imagine que l'ergonomie est clé. Ça me parle. J'ai déjà essayé des applications pour ma nièce où il fallait un diplôme d'ingénieur juste pour tourner la page. On passe plus de temps à se battre avec l'interface qu'à lire.
C'est le troisième point, adapté à l'enfant. Navigation intuitive, icônes claires, pas de menu complexe. Et enfin, le critère qui nous intéresse le plus, personnalisable. Le rapport insiste sur le fait qu'une personnalisation de qualité, ça va bien au-delà du simple remplacement du nom.
Ah oui.
Ça doit permettre d'adapter l'apparence des personnages, les lieux, voire des éléments de l'intrigue pour qu'ils résonnent vraiment avec la vie de l'enfant.
Et ça, une IA laissée à elle-même ne peut pas l'inventer de manière qualitative. Elle peut générer du texte, mais pas de l'intention pédagogique. Précisez-en, la qualité ne vient pas de la technologie seule. Elle vient de la collaboration étroite entre des experts humains. Des psychologues du développement, des pédagogues, des auteurs jeunesse et la technologie. Le moteur d'IA doit être un outil pour augmenter la créativité humaine, pas pour la remplacer.
Mmh. Une des sources qu'on a analysées sur la stratégie de marque le formule très joliment. De l'IA à l'empathie, la technologie est présente, mais l'amour est le message. Ça résume parfaitement l'idée. Une IA bien guidée par une intention humaine peut créer de la valeur. Une IA en roue libre, elle ne produit que du contenu. Donc si je comprends bien, on a d'un côté un potentiel incroyable et de l'autre, un vrai risque de tomber dans le gadget qui distrait. Finalement, la technologie en elle-même, elle est ni bonne ni mauvaise. J'ai l'impression que tout se joue dans le comment, dans la manière dont on s'en sert à la maison.
C'est ça.
Le meilleur bouquin du monde est inutile s'il est juste tendu à un enfant seul dans son coin.
Vous touchez au cœur du sujet. C'est l'ingrédient secret, le facteur absolument décisif. Et ce n'est pas juste une impression, c'est mesurable. Une étude de Konica, de 2023, s'est intéressée spécifiquement à la lecture partagée entre les pères et leurs jeunes enfants.
Ah, les pères, spécifiquement, hein. C'est intéressant.
Oui, et elle a révélé un détail aussi surprenant que significatif.
Allez-y, je vous écoute.
L'étude a montré que, de manière générale et statistiquement significative, les pères ont tendance à poser plus de questions de type « wow ». En français, on dirait des questions en PQC. Pourquoi, comment, où ? Des questions ouvertes, voilà. Des questions ouvertes qui ne demandent pas un simple oui ou non, mais qui poussent l'enfant à réfléchir, à structurer sa pensée, à formuler des idées plus complexes. Or, ce style d'interrogation est directement corrélé à un meilleur développement du vocabulaire et des compétences narratives de l'enfant.
C'est fou. Donc, le style de lecture du parent a un impact direct et mesurable. Un bon livre personnalisé, alors, c'est pas seulement une bonne histoire, c'est une histoire qui encourage ce genre de dialogue.
Qui donne des occasions de poser ces fameuses questions.
Exactement. Un livre de qualité doit ménager des pauses naturelles dans le récit, des moments où le parent peut rebondir. Il ne s'agit pas de lire une histoire d'un trait, mais de s'en servir comme d'un tremplin pour une conversation. Le livre devient un objet médiateur. C'est le point final qui relie tout, en fait. Le succès d'un livre personnalisé ne se mesure pas à sa lecture, mais à la conversation qu'il génère autour.
C'est la clé. Le rôle du parent est de contextualiser. Un article passionnant de la London Review of Education appelle ça le discours extratextuel. C'est tout ce que le parent dit qui n'est pas écrit sur la page.
Oh, regarde, un chien rouge, comme celui de mamie.
C'est exactement ça. Ou, tu te souviens quand nous sommes allés à la plage ? C'est comme dans le livre, un livre personnalisé de haute qualité, en intégrant nativement des éléments de la vie de l'enfant, son doudou, le nom de son école. Il fait déjà une partie de ce travail.
C'est une sorte de cheat code pour le discours extratextuel. Il construit les ponts vers la vie de l'enfant directement dans l'histoire, ce qui abaisse la barrière pour le parent et rend la conversation plus riche et spontanée.
C'est une excellente façon de le formuler. On a là l'union parfaite entre ce que les chercheurs appellent la personnalisation agentive, où l'utilisateur a un certain contrôle, et le soutien parental. Où l'adulte guide l'expérience. Le livre n'est plus un objet statique, c'est le script d'une interaction unique.
Ok, si on devait résumer notre exploration en quelques points clés, pour être sûr de repartir avec les idées claires. Premièrement, la science soutient l'idée que les livres personnalisés, quand ils sont bien faits, peuvent vraiment renforcer l'empathie et le vocabulaire. C'est pas juste du marketing.
Non, c'est fondé.
Deuxièmement, la qualité est le maître mot. Et la qualité, ça veut dire une conception intentionnelle, pertinente, guidée par des experts humains, et pas une simple génération automatique par une IA.
Tout à fait. L'intention, avant tout. Et troisièmement, le plus important peut-être, le vrai pouvoir de ces outils, ce n'est pas la technologie elle-même, mais sa capacité à catalyser, à enrichir l'interaction entre le parent et l'enfant pendant la lecture partagée.
C'est une synthèse parfaite. Et pour conclure, j'aimerais laisser une dernière pensée. Une question un peu plus provocatrice.
J'aime ça. L'article de la London Review of Education que j'ai mentionné utilise une métaphore très puissante, celle de la carte. Autrefois, on apprenait à se situer dans le monde en lisant une carte qui allait d'un point A à un point B.
D'accord.
C'était un espace objectif, extérieur à nous. Aujourd'hui, avec le GPS sur nos téléphones, on navigue toujours de moi à B. On est systématiquement le point de départ, le centre de la carte.
Je vois où vous voulez en venir. C'est à la fois très pratique et un peu angoissant, oui. Les livres personnalisés font la même chose. Ils créent un univers narratif qui va de l'enfant au monde. C'est leur grande force, on l'a vu. Mais ça soulève une question essentielle pour le futur. En plaçant systématiquement nos enfants au centre de chaque histoire, quelles sont les implications à long terme ? Comment on s'assure qu'ils apprennent aussi à comprendre et à naviguer dans des récits où ils ne sont pas le héros ? Autrement dit.
En d'autres termes, comment on les prépare à trouver leur place dans le monde objectif, celui qui, la plupart du temps, ne tournera pas autour d'eux ?